Alors, l'association Synapse, c'est une association toulousaine dont on accueille deux membres là aujourd'hui dans le magazine de Canal. Et donc, cette association, elle propose des temps de discussion et d'échange autour des nouvelles technologies et de leurs usages. Mais on vous retrouve également, on les retrouve également dans les écoles lors d'ateliers d'éducation aux médias notamment. Donc sur leur site YouTube, réseaux sociaux, télé-réalité, info 2.0, théorie du complot, on peut trouver autant d'objets et de thèmes, de rubriques que l'association investit en analysant les pratiques et les risques justement de ces usages des réseaux sociaux et en proposant des manières peut-être de s'en prémunir, de s'en protéger, voire de se désintoxiquer. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'action de votre association auprès des jeunes, des collégiens notamment. Et c'est pour ça que, en guise de première question, j'aimerais bien vous demander, vous qui, du coup, allez parler des nouvelles technologies et de leurs usages, notamment dans les collèges, qui est un peu le moment, je crois, où on fait vraiment connaissance avec les nouvelles technologies. C'est quoi les différences avec... c'est quoi les pratiques propres à la génération la 2022 par rapport à ce que pouvaient connaître des générations précédentes, que ce soit celle qui était au collège dans les années 2010 et encore plus celle qui était au collège, celle qui était ado, pré-ado dans les années 2000.
Ben, la différence majeure, c'est le smartphone et l'arrivée du smartphone et l'accès à cet outil-là. L'attirance par rapport aux écrans de manière globale, elle a toujours été. On était devant la télé, on était devant nos consoles, on était devant nos ordinateurs, etc. Sauf que ben là, eux, ils ont un écran en permanence dans leur poche, un écran en plus bien plus puissant que tous les écrans que nous on a pu connaître. Puisque du coup, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a toutes les applications qui sont liées à cet écran. Et la grande différence, c'est que en permanence, ils sont sollicités par cet écran via leurs notifications, via les multiples réseaux sociaux qu'ils peuvent utiliser. Quand on commence nos interventions, on fait une grosse discussion avec eux sur justement où ils en sont dans leur pratique. Donc nous, on touche tous les niveaux de collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Et dès la 6e, la plupart sont déjà sur TikTok, sur Snapchat et sur Insta. C'est-à-dire que c'est même pas un réseau social, c'est 3, 4 réseaux sociaux qu'ils vont utiliser en même temps. Plus des jeux auxquels ils jouent régulièrement. Les pratiques d'écran ont explosé dans leur diversité. Les différences dans les générations, c'est aussi le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'encadrement ou un encadrement un peu léger dans les familles, souvent le temps d'écran il explose littéralement. Là après le confinement on observe qu'en plus il a encore plus explosé et on se retrouve régulièrement dans des classes de 25 avec 4-5 élèves qui sont à plus de 6 heures d'écran par jour en jour d'école, c'est-à-dire qu'ils s'enchaînent 5-6 heures de cours, ils rentrent chez eux, ils se refont 5-6 heures d'écran avec des pratiques très variées. Bon, après, quand on dit 5-6 heures d'écran, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend aussi de ce qu'ils y font. C'est à voir avec eux s'ils jouent, s'ils vont sur les réseaux sociaux et quel impact ça peut avoir sur eux. La différence majeure, je dirais, c'est que nous, on prend souvent cet exemple-là, c'est que on a la sensation que cet outil-là qu'on vient de leur mettre dans les mains, donc ce smartphone, donc souvent le smartphone il est donné dès la 6e, il y a très peu d'élèves qui n'ont pas déjà leur smartphone dès la 6e. Pour donner un ordre d'idée, nous on voit à peu près 5000 élèves du coup dans l'année, du coup. Donc on a toute la région Aix-Midi-Pyrénées en fait, donc sur 8 départements, donc on a une vision un peu globale de la situation. Et du coup, la raison pour laquelle les parents leur donnent un smartphone, c'est souvent pour rester en contact, parce qu'ils vont au collège, donc c'est un peu loin, et que du coup, les parents veulent pouvoir les joindre assez facilement. Mais ils ne leur donnent pas un téléphone à touche avec juste un accès au téléphone, ils leur donnent un smartphone, quoi. Donc évidemment, ça leur donne accès à énormément de choses à côté. Et du coup, nous, la comparaison qu'on fait, c'est qu'on a la sensation de leur donner une voiture sans permis, quoi, en gros. On trouve que la puissance de cet outil-là, le manque de recul, le manque de maîtrise qu'on a tous par rapport à cet outil-là, adultes comme plus jeunes, fait que du coup, on devrait apprendre à s'en servir, apprendre à gérer ça. Et aujourd'hui, les gamins qu'on rencontre ont la sensation de savoir s'en servir parce que ils savent très bien aller sur Snapchat, ils savent très bien aller jouer à des jeux vidéo, ils savent très bien aller gérer tout ça et probablement mieux que plein d'adultes. Sauf que comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, comment c'est conçu, ça évidemment ils ne le savent pas, mais je le dis, ils ne le savent pas plus que les adultes finalement parce que c'est tout nouveau et c'est tout neuf et on apprend tous à s'en servir.
Mmh. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, pas plus. non, oui, c'est sur ce côté, de évidemment de leur pratique. Enfin, c'est vraiment pour insister sur ce que disait Julien sur leur pratique qui est assez incroyable de maîtrise en fait de maîtrise de l'outil comparé à vraiment la non compréhension de d'un truc tout bête comme qu'est-ce qui se passe quand tu envoies un snap à ton copain, la non-compréhension de ce que ça induit, de par quel tuyau ça passe, etc. Bon, après, c'est normal au collège qu'on s'y intéresse pas. Mais en fait, c'est quand on leur explique, il y a vraiment une découverte assez... enfin, je vais pas dire qu'ils tombent de haut non plus, c'est pas vrai, mais il y a vraiment ce côté-là, et en fait ça c'est un côté qui pour le coup, à mon avis, nous les adultes on est un peu plus conscients, parce que bon voilà, il y a quand même beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui en parlent dans les médias, mais eux il y a vraiment pas du tout l'intérêt, c'est l'utilité, l'objet en lui-même, utiliser l'application est plus important que de savoir ce qu'est cette application.
Mais en fait je me dis que... En fait, il y a aussi des logiques d'addiction qui sont, comment dire, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entretenu et qui est créé volontairement par les grosses boîtes de, du numérique, en fait, qui créent ça. Et je me demandais justement comment est-ce que vous approchez ça, c'est-à-dire sur le fait que eux prennent conscience qu'en fait, ils se retrouvent en position un petit peu de marchandises de cette économie d'Internet et comment... quelle est la place de... Ouais, est-ce que, par exemple, vous leur parlez du fait que c'est un business et est-ce qu'ils en ont conscience ?
Sans cesse. Sans cesse. Alors, juste, je voudrais revenir sur ce terme d'addiction parce qu'il est très employé aujourd'hui. Nous, à cet âge-là, on ne parle pas encore d'addiction. Dans le sens où l'addiction, pour nous, c'est un terme médical qui est lié à des addictions autour des drogues, autour des jeux d'argent, autour aujourd'hui des jeux vidéo. Les jeux vidéo, des spécialistes accueillent des jeunes ou des moins jeunes addicts aux jeux vidéo. Et l'addiction, c'est vraiment... on parle d'addiction à partir du moment où ça commence à avoir des conséquences graves sur notre quotidien. Soit on va dépenser tout son argent dans son jeu d'argent, soit ça va toucher notre santé, etc. À cet âge-là, on n'est pas encore sur ces caps-là. Donc nous, on parle de pratiques excessives qui ont aussi des conséquences sur leur quotidien, sur leur santé, sur toutes ces choses-là. Mais c'est encore un âge où il y a un encadrement, que ce soit familial ou école ou des choses comme ça, et où il y a encore une écoute de la part de l'enfant, de l'adolescent auprès des adultes de manière générale. Nous, notre travail, c'est vraiment, la base de notre travail, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on choisit en permanence d'utiliser des outils, donc les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries, peu importe, donc soit pour s'informer, soit pour se cultiver, pour, etc. Or, ces outils, du coup, évidemment, ils sont pensés pour que on y passe du temps, en fait. Pour faire des choix, c'est-à-dire pour choisir d'utiliser tel ou tel outil, il faut comprendre, du coup, comment il est fait. Et effectivement, quand on commence à étudier un Snapchat, par exemple, quand on décrypte les réseaux sociaux, on décrypte surtout Snapchat, parce que c'est un réseau qu'ils utilisent beaucoup, on leur fait comprendre que le principe, l'économie de Snapchat, c'est la récolte de données. Donc Snapchat a tout intérêt à ce qu'on y passe beaucoup de temps pour livrer un maximum de données sur nous, pour qu'ils puissent nous cibler et nous filer la bonne publicité, le bon message marketing, etc.
Il y a un truc qui est assez flagrant, je trouve, chez les ados qu'on rencontre, c'est que ils savent en fait que ces sociétés-là, donc que ce soit les GAFAM ou les plus petits, hein, comme Snapchat et TikTok, ils savent que ces sociétés en fait sont très riches, gagnent énormément d'argent, mais ils ne se sont absolument pas posé la question de comment ils gagnent de l'argent. Et quand il y a des questions très simples, c'est de leur demander: est-ce que tu as payé quelque chose un jour sur ce réseau ? La réponse est généralement non, parce que les parents contrôlent quand même. Donc en fait, leur faire petit à petit comprendre que ce sont en fait des grosses régies publicitaires, sans leur mettre ce terme-là, mais leur faire comprendre que en fait, leurs données servent à leur envoyer de la pub, et c'est ces annonceurs-là qui donnent de l'argent à ces plateformes-là. Et encore une fois, voilà, il y a toujours ce truc assez incroyable entre la maîtrise et le fait de vraiment pas se poser de questions. Après, je pense qu'il y a un côté aussi qui est de l'insouciance normale à cet âge-là. Mais en fait, le problème, on va dire, de l'insouciance à ce moment-là, c'est qu'on arrive dans un cadre où ils vont aller sur des applications qui sont interdites aux mineurs pour beaucoup. Et voilà, c'est déjà les premiers trucs. Ils savent très bien qu'ils sont pas censés avoir le droit d'aller là-dessus, et donc une fois qu'on prend ça, ils sont soumis effectivement à des contenus commerciaux, etc. Et en fait, ils ont pas du tout la même approche qu'on va dire, pour revenir un peu à ta question de départ sur les différences de pratiques intergénérationnelles. On va dire que nous, quand on voyait de la pub à la télé ou dans le journal, etc., c'était très flagrant, quoi. Là, aujourd'hui, ça le devient beaucoup moins. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là qui est très vicieux, et que vraiment, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est de la publicité, donc ce qui est vraiment à but commercial, et ce qui est juste un contenu,
sponsorisé, un partenariat, ou ce genre de choses.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, personnellement, je suis un peu, je regarde beaucoup YouTube de manière compulsive. Voilà, mais bon, c'est mon problème. Et donc, du coup, j'ai pu constater que, notamment YouTube, mais j'imagine d'autres réseaux aussi, ont tout fait pour mettre en place une culture, enfin, on participait en fait à créer une culture commerciale qui fait qu'en fait, il fallait bien nous montrer que en fait, le capitalisme, ça peut devenir une passion, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si les youtubeurs, youtubeuses qui font du placement de produits, en fait, ils le font, mais c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de le faire, et qu'en fait, c'est super intéressant de se demander... sincèrement, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette culture-là, en fait, c'est un peu l'apogée de la culture commerciale, enfin de la culture capitaliste, de se dire, mais c'est passionnant de se demander c'est quoi la dernière chemise que cette firme de textile va sortir, quoi. Et donc, du coup, je me demandais, avant qu'on fasse une petite pause café, même si la cafetière a complètement débordé, il y en a de partout, mais bon, ça ne regarde que nous. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de café, quoi. Enfin, juste pour vous prévenir. C'est parce qu'en fait, j'ai vu que là, sur votre site, il y a une rubrique sur YouTube où vous faites une sorte de décryptage d'un YouTuber bien connu qui, justement, de montrer un peu les mécanismes du placement de produits, de la marchandisation des vidéos. C'est quoi le rapport qu'ils ont, eux, justement, par rapport à ce que je disais ? Est-ce qu'il y a une adhésion totale, justement, aux valeurs de la marchandisation et de la culture commerciale ? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose ?
Ben, le débat n'est pas très clair chez eux. C'est-à-dire que le placement de produits, c'est un truc évidemment qu'ils connaissent, qu'ils connaissent les mécaniques enfin, ils connaissent pas précisément, et c'est l'objet du décryptage, justement, c'est essayer de leur faire comprendre vraiment l'enjeu qu'il peut y avoir autour de ces placements de produits. Certains, mais c'est rare, nous disent bah ouais, c'est pas cool. Du coup, c'est pas cool parce que ben c'est pas clair sur la position du youtubeur ou de la youtubeuse par rapport à ce produit-là, et ça, c'est pas cool. Mais c'est vraiment assez rare, du coup, comme positionnement. En général, ils se posent pas trop de questions, et effectivement, c'est devenu assez banal, et ils vont pas faire la différence entre un épisode sponsorisé et un épisode non sponsorisé de leur youtubeur ou de leur youtubeuse, en fait.
Peut-être parce que ça se ressemble beaucoup au final.
De toute façon, ça fait partie de l'objet du décryptage, c'est de montrer que évidemment, l'idée du marketing sur YouTube, c'est que les marques ont très bien compris qu'il fallait arrêter avec la pub classique, et que là, tout d'un coup, intégrer l'univers d'un youtubeur était hyper intéressant pour eux, parce que du coup, il y avait un capital sympathie du youtubeur qui pouvait vraiment exploiter, en fait, et tout devenait sympa, quoi. La marque, le produit et tout ça, tout devenait vraiment chouette, quoi, du coup.
Mais en fait, quand on sait ça, on peut se dire ok, et où est le problème?
Exactement.
Et du coup, c'est quoi l'angle que vous adoptez pour par exemple discuter avec eux des problèmes que ça peut poser? Selon vous, quel est le problème, d'ailleurs?
On les a appelés des influenceurs et du coup, on revient sur ce terme là c'est-à-dire que s'il y a influenceur, il y a influencé, et du coup, quel impact ça peut avoir sur eux, sur nous de manière globale, et sur notre rapport justement à la consommation, en fait. Ça, c'est une première question. Et puis, nous, ce qui nous a intéressé dans le montage de ce décryptage, c'est vraiment justement tout l'imaginaire qu'il peut y avoir autour des youtubeurs et de l'argent qu'ils gagnent, du coup. Et nous, on voulait replacer, en fait, le travail que ça demandait, et le fait que cette histoire de partenariat et de sponsoring, en fait, est de manière indirecte imposée par YouTube et donc par Google, puisque du coup, ce qu'on appelle la YouTube Money, en fait, donc ce qu'on peut gagner juste avec le nombre de vues, ce qu'on appelle le watch time, donc le temps des vidéos, le temps qu'on regarde les vidéos, etc., ne rémunère pas du tout assez le travail fourni par les youtubeurs. C'est peanuts, en fait. Donc, si à un moment donné, on veut vivre et faire vivre ses équipes, faire vivre du coup tout l'entreprise, en fait, parce que c'est donc le youtubeur qu'on décrypte, c'est Thibaut InShape. Ce garçon a toute une équipe à monter une entreprise, du coup, pour tu vois, se rémunérer et rémunérer ses équipes. Tout ça, s'il veut continuer à les rémunérer, il est obligé à un moment donné de passer par du sponsoring et du partenariat. Il a pas le choix. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas de modèle économique. Alors, s'il y a des modèles de dons éventuellement, mais c'est pas ça commence à se mettre un peu en place sur Twitch, c'est assez répandu. Mais sur YouTube, c'est pas du tout la logique qui a été prise au début.
Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Dans la vie t'as pas de femme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu suces une... C'est chum comme une jeune fille avec un type qui a l'âge de son père. Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires. C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire. Mais au jugement dernier, est-ce que les calages te sauvèrent? Souffrir au point de presque douter du ciel. Mais la foi, c'est tout ce qui te reste quand tout est usé. Le passé fut turbulent et nous réserve un futur brûlant. Envers les clones, il me reste de l'animosité et mon esprit baisse la luminosité. Certains sont gênés que je puisse croire. Soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste 3. Clique droit, supprimer, nique-toi, je suis premier.
DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. Chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification. Montre-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Faut que tes squats soient taffés, faut que tous les moments avec ton squat soient parfaits. Moitié femme, moitié machine. Si tu suis pas la mode, ils diront que tu es moins chic. Je me sens renois juif, blanc, rebeu et noichi. Jamais je ne choisirai la couleur du emoji. Tellement de controverses contrefaites. Tellement de contrôle C, contrôle V. Le miroir élabore un moratoire. Tu crois être un homme rare, toi t'es un énorme rat de laboratoire. Conformera fermement, conformément à leur morale. Et qu'on enfermera dans un mouroir, où est la mouroir? DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. Aujourd'hui je suis pas sorti, peut-être qu'il pleut. C'était pas pareil quand on était type. Ton ami te snap, mais tu le verras dès qu'il peut. Si tu meurs, t'auras plein de emoji, tête qui pleure. Oh. Chacun son rôle, attiré par le roro. Comme l'oiseau noir, mes roses sortent des roseaux de Gonoa. Anti-héros comme Roro, noiseau, rôle. L'ambiance est morose, on est en run, le moteur on run. Aura on rodatisé, des boissons roses aromatisées. Qu'on rotera avec des relents de mort au rat. Prends ta dose de gélule, tu me feras plus rien gober la faute à tout ce que j'ai lu. Les connes lâche un com, tu t'es amochi, t'as pris quoi? Emoji couteau, hashtag taspé, nude sur le darknet. Emoji abricot, emoji goutte d'eau, hashtag tarpé. J'ai de cyprine, je t'ai surpris, je t'en supplie, je t'aime, supprime. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie.
J'ai reconnu ton doigt. Ah, ah. Ah. Il a dit c'est un trans qui m'a envoyé ça alors que c'est son teuf. Menteur, menteur, j'ai reconnu ta main. Ah, ah, c'est la fin des temps.
De retour dans le magazine de Canal Sud 92.2 en compagnie de l'association Synapse. Peut-être pour poursuivre notre discussion sur justement ces ateliers d'information et de peut-être de prévention, je ne sais pas, à l'utilisation des réseaux sociaux. Je me demandais aussi en termes d'information et de politisation. En fait, le collège, c'est peut-être pas le moment où on se politise vraiment, mais en tout cas, c'est le moment dans lequel on commence à avoir accès en fait à une certaine réalité sociale, en fait, à comprendre que ce soit par rapport à son propre vécu, mais aussi à ce qu'on lit, à ce qu'on voit dans les médias, à se faire une représentation un peu de comment les choses se passent. Comment est-ce que vous prenez le truc et quel rapport vous avez? Est-ce que, par exemple, pareil, pour reprendre un peu la comparaison entre les différentes générations, c'est quoi le rapport que les collégiens, collégiennes, là, ont justement à cette information-là? Et quelle est la place, par exemple, d'Internet, en fait, dans la construction du réel, en fait, pour ces jeunes-là?
On aborde peu la question avec eux, pour deux raisons, parce que déjà il y a tout le boulot à côté autour des réseaux sociaux, on fait un décryptage autour de la télé-réalité, c'est encore quelque chose qui consomme énormément, et du coup c'est intéressant d'aller comprendre avec eux comment ça marche, et c'est vrai que l'information c'est un truc qui est encore très flou pour eux, quand on parle de l'information ils savent pas de quoi on parle en fait, et finalement ils savent pas bien nous dire où est-ce qu'ils sont informés, sur quoi ils s'informent, à quel moment c'est de l'information, à quel moment c'est une publication, c'est une story, c'est un je sais pas quoi, du coup. Et c'est encore très nébuleux pour eux et c'est très compliqué à faire. Quand on fait le décryptage fake news, par exemple, Donc on a 2-3 exemples de cas avérés de fake news et on revient un peu sur l'historique et voir comment on aurait pu les décrypter, comment on aurait pu. C'est pas des choses qui le... Ils comprennent très bien la mécanique, ils comprennent très bien le truc, mais ça, dans leur quotidien, on ne sent pas que ça leur parle, quoi. On ne sent pas qu'ils ont été confrontés à ce genre de choses, ou en tout cas, ils savent pas l'identifier par rapport à leur pratique.
Donc et... tout ce qui est théorie du complot et ces trucs-là, ça vient après.
Ouais, non, théorie du complot, c'est encore un autre truc.
Ça fait quand même partie de la... Ouais, des mécanismes d'information et des informations.
Ce que je veux dire, c'est que théorie du complot, c'est vachement plus vaste parce qu'il y a les théories du complot politiques, du coup, mais il y a aussi toutes les théories du complot un peu fantasmagoriques. Et ça, ils en sont très friands. En fait, nous, on montre le complot des chats, par exemple, donc les chats extraterrestres qui viendraient envahir la Terre. Bon, ça, c'est le genre de truc. Ils aiment bien se faire peur, comme nous, on aime bien se faire peur aussi. Il y a un truc qui a circulé, là, un collègue à Squeezie, donc un YouTuber, qui a fait, il s'est spécialisé dans un truc qui s'appelle les SCP, je crois, du coup, qui est une espèce de zone 51 française, donc où des scientifiques au nom du gouvernement fabriquaient des monstres qui s'échappent de cette zone-là, et du coup, t'as des histoires... Bon, ça, c'est le genre de truc qui a circulé et qu'ils aiment bien et qui est intéressant à comprendre et à déconstruire en termes d'image, en termes de narration, tout ça. Et qui peuvent amener, du coup, vers des complots plus liés aux attentats de Charlie, moi, j'aime bien traiter l'histoire du complot de les Américains sont jamais allés sur la Lune, ce genre de choses. Et du coup, on peut les amener, et ils voient le lien, et c'est des trucs qui leur parlent un peu plus, quoi. Les fake news, c'est un peu trop, justement, information pour eux. Et comme c'est encore un peu flou dans leur tête, c'est moins facile. On commence à intervenir dans les lycées. On a été un peu stoppé avec le Covid parce que c'était un peu le bordel dans les lycées pour intervenir, mais là on y retourne là encore, et c'est des questions évidemment qui sont beaucoup plus simples à aller aborder avec des lycéens et à aller creuser avec des lycéens, parce que là c'est vraiment l'âge où ils commencent à se construire.
Et j'avais une dernière question avant de passer de présenter un petit peu vos apéro-discussions là, apéro-décryptage, parce qu'en fait moi là sur mon smartphone et sur mon ordinateur, on me fait tous les jours, on me donne il y a une sorte d'application bien-être numérique qui m'informe sur mon utilisation. Comment faut le prendre, ça? C'est les grandes firmes qui ont déjà intégré cette critique-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est un peu comme McDonald's qui met la liste des ingrédients. C'est-à-dire que y a après, bon, ça c'est pour la petite pique. Je pense qu'il y a deux trucs qu'il faut séparer. Il y a ce genre d'application, je crois que c'est Apple qui fait ça, surtout.
Android,
il y en a aussi, ouais. Incroyable. Il y a, je pense, la différence entre les fabricants de smartphones qui veulent vendre des smartphones et les fabricants d'applications, les Facebook, les Snapchat, etc., qui, eux, ont besoin de... Enfin, utilisent clairement les procédés liés à l'addiction. Enfin, voilà, donc il y a une science qui... Une science. Un enseignement qui s'appelle la captologie, où tout le monde est passé un peu par là, dans les grands pontes des GAFAM, qui est enseigné à Stanford.
La captologie.
Ouais, c'est une discipline à Stanford, qui est, en gros, c'est toutes les techniques utilisées, comment capter un public, en fait.
On devrait faire ça. Attention. À Canal Sud, mais on en est un petit peu loin.
Stanford, c'est loin.
Stanford, c'est loin. en fait, pour moi, il y a deux trucs à séparer. Il y a Android, donc Google, il y a Apple, ceux qui font des téléphones, qui, eux, ont besoin de vendre des téléphones. Donc, il faut montrer un peu que ça va, c'est mettre des semi-barrières. Et derrière, on va avoir des Facebook, des Twitter, des Snap, des TikTok, qui, eux, ont besoin qu'on capte... eux ont besoin de capter l'attention. Donc, en fait, c'est deux trucs complètement séparés. Enfin, pour moi, il y a un cynisme, bien sûr. Une hypocrisie, c'est sûr et certain. Mais en fait, c'est pas les deux mêmes. Voilà. Si Facebook faisait ce genre d'application, là, ouais, là, ce serait quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais pour l'instant, ça va à peu près, je pense.
Mais effectivement, ils sont en train de. Là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui émergent autour de la problématique que posent les réseaux sociaux. Il y a eu le patron d'Instagram qui a été attaqué parce qu'ils avaient caché un rapport. Comme quoi, ouais. Le rapport disait plein de choses, et notamment que le rapport des jeunes filles à leur image, en fait, à travers Instagram, et que y avait un nombre, je sais plus, une trentaine de pourcents de jeunes filles qui enclenchaient des régimes, qui pouvaient enclencher des complexes, en tout cas, par rapport au corps, du coup.
Alors qu'il y a une propagande de fou pour dire que les réseaux sociaux, c'est justement le lieu d'expression de toute la diversité, body positive et compagnie, quoi. Alors qu'elles ont toutes... Enfin, qu'il y a complètement un modèle qui n'est pas le même que Kate Moss, mais qui est un modèle quand même, quoi, de beauté.
Et ouais, et du coup, ça, ils le savent, ils l'ont étudié. Bon, évidemment, ils ne font rien parce que c'est 30% de leurs utilisateurs qu'il faudrait qu'ils remettent en question. Et ça, c'est compliqué. Donc, ces trucs de bien-être et sur, qui commencent à mettre en place, je pense que c'est lié à ce qu'ils savent, mais ça reste peanuts par rapport à l'enjeu que peut avoir du coup sur le bien-être, sur l'image de soi, sur la santé autour de ces réseaux-là. Ce qui est intéressant à noter, et souvent ce qu'on dit aux élèves, c'est que la plupart des enfants, des gens qui travaillent du coup dans la Silicon Valley ou dans qui développent ce genre d'applications et d'outils, interdisent du coup, enfin les parents interdisent à leurs enfants du coup d'utiliser les écrans à un certain âge, enfin ont un contrôle hyper strict du coup sur l'utilisation de leurs écrans du coup. Donc enfin il y a un moment faut ouais. être cohérent, quoi.
Mais même en plus c'est revendiqué là dans le documentaire Netflix il y a pas longtemps qui justement fait sa critique.
Oui.
Là en fait c'est assez impressionnant parce que là, on se plonge vraiment dans les méandres de la récupération de la critique par le capitalisme et vraiment ce capitalisme-là qui avale toutes ces formes de critique et qui est vraiment se présente sous un meilleur jour. Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de continuer là-dessus. Il nous reste 4-5 minutes. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ces apéros décryptage là, peut-être la programmation à venir, et puis de toute façon peut-être on aura l'occasion de se revoir pour parler de sujets un petit peu plus précis. Mais ouais, du coup, ça consiste en quoi, vos apéros décryptage?
Alors, les apéros décryptage, c'est un temps qu'on met en place à l'Astronef, donc le café l'Astronef qui se trouve à Rangueil.
Saouzlon.
Saouzlon, Rangueil. Quartier Rangueil. rond-point des avions, voilà, comme ça, c'est fait. Qui nous accueille tous les derniers mardis du mois. Pour qu'on vienne aborder un sujet lié au numérique, aux médias, aux deux. C'est des sujets que on va prendre, enfin que nous on va choisir. Ça peut être en fonction de l'actualité, ça peut être en fonction de sujets qui nous font envie, en fonction d'intervenants qu'on peut avoir. Donc on va créer tout quelque chose autour d'eux. Donc c'était le cas typiquement hier soir. Donc sur cet apéro décryptage qui s'intitulait les ingénieurs doivent-ils changer de métier, donc qui était voilà qu'on a vraiment créé autour du livre de Célia Izoard et donc sur lequel on a pu débattre avec plusieurs ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs pendant 2 heures sur la place de l'ingénieur là-dedans. Donc voilà, c'est l'idée, c'est un apéro décryptage, donc il y a quand même le mot apéro dedans. C'est que dans l'idée, c'est pas la beuverie, mais c'est voilà d'avoir quelque chose. C'est pas faire redescendre une connaissance. C'est pas des sachants qui parlent à des gens. C'est vraiment, on prend un sujet, on prend quelques billes dessus, on essaie de l'animer d'une manière assez, qui soit assez ludique, participative. Et vraiment, le but, c'est de lancer le débat, de filer des billes à des gens, mais généralement aussi de récupérer aussi des informations des gens qui nous servent à...
Oui, vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Je te presse parce que du coup, on va... Voilà. Mais du coup...
Je vais très vite.
Ouais, et c'est quand la prochaine?
Alors,
c'est
la prochaine, ce sera le 29 mars. Donc pareil, au Café L'Astronef, on parlera d'un thème assez clinquant qui s'appelle « Internet est-il de droite ?» Donc la chose est posée.
Bling bling.
Voilà. Et alors, je crois qu'on a déjà suivi d'avril.
Avril, on parlera peut-être. C'est en cours d'une application qui s'appelle Exodus. Donc un collectif qui s'est monté pour tracer les traceurs sur nos téléphones et qui nous permet de comprendre en fonction de telle application quel traceur on a. Et en mai, normalement, on fera un truc sur la pornographie. Et en juin, on ne sait pas encore.
Merci beaucoup à vous. Cette émission touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci d'être venu discuter avec nous.
Puis merci de l'invite.
À bientôt.
À très bientôt.
C'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne trop envie. Et ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, and finally, nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Feel like a big shit, like a big